Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania, Bel Âge, sélection du Reader's Digest. Au programme, Lettre à mon trouble, une plateforme pour réduire les coûts de notre panier d'épicerie. Et les 7 meilleurs poissons à manger et 5 qu'il faut éviter. Bonne écoute.
La servante écarlate, ou l'émergence d'un regard féminin dans les fictions audiovisuelles. Un texte d'Anne-Sophie Gravel paru le 23 avril 2021 dans le magazine La Conversation. Après un arrêt forcé du tournage en raison de la pandémie de COVID-19, la quatrième saison de la série télévisée La servante écarlate a finalement été diffusée sur la plateforme Hulu. Adaptée du roman de la Canadienne Margaret Atwood, la série présente un univers dystopique où les États-Unis, renommés Gilead, sont aux mains d'un régime totalitaire sexiste. Plusieurs femmes à qui on a arraché leurs enfants sont réduites au statut de mère porteuse. Depuis sa première saison en 2017, La servante écarlate a reçu de nombreuses distinctions. L'uniforme écarlate des personnages a été repris à plusieurs reprises lors de mobilisations féministes, notamment sous le gouvernement Trump, dont plusieurs actions visaient à restreindre l'accès à l'avortement. Pas de doute, La servante écarlate fait beaucoup parler et la parité de son équipe créatrice y est assurément pour quelque chose. Doctorante en littérature et en art de la scène et de l'écran, ma thèse s'intéresse aux protagonistes féminins dans des séries télévisées récentes adaptées de romans de femmes. La place des femmes. Les dernières années ont été particulièrement mouvementées dans le domaine artistique, principalement en raison des récentes dénonciations de violences à caractère sexuel, mouvement hashtag MeToo et condamnation de Harvey Weinstein, mais aussi de la sous-représentation des femmes dans l'industrie. Au Québec et au Canada, on a vu l'adoption de politiques de parité en matière de production et de financement pour permettre à davantage de réalisatrices de concrétiser leurs projets. En effet, un rapport de l'organisme Réalisatrices équitables déplorait en 2016 que, bien que les femmes représentent la moitié des étudiants dans les écoles de cinéma, très peu se voient confier une part de l'enveloppe budgétaire. Or, il existe une causalité importante entre la place des femmes derrière la caméra et la manière dont les personnages féminins sont représentés à l'écran. Les regards de la caméra. Les conventions du langage audiovisuel, cadrage, mouvement de caméra, montage, décor, etc., ont été principalement élaborées par des hommes au siècle dernier et sont inscrites dans une dynamique binaire dont on tente de se détacher. Le masculin actif et le féminin passif. Traditionnellement, au cinéma, les hommes regardent et les femmes sont regardées. Cette façon de représenter le monde avec un point de vue masculin hétérosexuel est appelée, depuis les années 70, le « male gaze », le regard masculin. Toutefois, dans les dernières années, on a constaté la montée d'un « female gaze », particulièrement à la télévision. Des scénaristes et réalisatrices insufflent leur vision du monde à des œuvres dont les femmes portent l'action. Depuis le milieu des années 2010, des séries comme Outlander, 2014 à En cours, Orange is the New Black, 2013 à 2019, et plus récemment Big Little Lies, 2017 à En cours, et Unorthodox, 2020, ont amené un souffle nouveau dans le paysage télévisuel et ont contribué à casser le plafond de verre du petit écran. Diffusée depuis 2017, La servante écarlate, l'une des premières à employer une équipe de scénarisation et de réalisation paritaire, figure parmi ces séries pionnières et est devenue incontournable pour l'analyse de ce renouvellement des pratiques. Émergence d'un jeu féminin. Dans cet univers, la moindre opposition au régime pourrait valoir au personnage principal, la servante Offred, un violent châtiment. La série s'emploie à révéler sa rébellion par un usage original des moyens narratifs. La présence de la voix hors-champ d'Offred permet, par exemple, d'avoir accès à ses pensées qui contrastent avec ses apparences soumises. De cette manière, Offred laisse entendre de nombreux jurons et pose, à l'insu de ses maîtres, un regard très ironique et rébarbatif sur les événements. L'auditoire devient ainsi son principal confident et la découvre intelligente et affirmée. La trame musicale populaire tranche avec l'ambiance austère de la série et permet également de donner accès au point de vue des femmes. Par exemple, lorsqu'une servante apprend avoir subi une excision, on entend une chanson tirée du répertoire punk, style historiquement associé à la contre-culture. La musique devient le reflet d'une colère qui n'a que très peu d'espace pour s'exprimer. La narration crée donc un jeu féminin novateur qui rend compte de l'expérience du monde de ces femmes. Sexualité revendicatrice. Le female gaze s'incarne également par la manière de montrer les corps lors des scènes de sexualité qui, traditionnellement, présentent les femmes comme objets de désir stéréotypés. Dans La servante écarlate, une opposition se tisse entre les scènes de violence sexuelle et la sexualité désirée par les femmes. Les servantes subissent un viol mensuel destiné à les engrosser. Offred y est couché entre les jambes de l'épouse de son agresseur, qui lui tient les poignets et évite le regard de son mari. La caméra présente ces scènes de manière très dépouillée. Cadrage symétrique, voire sévère, absence de musique transmettant le malaise des personnages, emphase sur les sons de vêtements froissés et les raclements de gorges embarrassés. Offred, l'air absent, fixe le plafond. Ces séquences sont conçues de manière à éliminer le moindre potentiel érotique. En parallèle, lorsque la jeune femme fait l'amour pour la première fois avec un homme qu'elle désire, le langage audiovisuel se métamorphose. Les mouvements de caméra sont lancinants, les cadrages se resserrent sur les corps, les personnages sont positionnés différemment. Offred a le contrôle total de la relation sexuelle qu'elle a initiée. La trame sonore évoque sa jouissance en faisant entendre des applaudissements et une chanson de Nina Simone, de style blues, traitant du désir féminin. Girl Power. Ce que les dirigeants de Gilead n'avaient pas anticipé, c'est qu'assujettir les femmes les mènerait à s'associer pour tenir tête. Même l'épouse de la maisonnée d'Offred en vient à manigancer contre son mari qui l'a reléguée à un rang de subalterne alors qu'elle a participé à élaborer les assises politiques de ce nouveau monde. La servante écarlate est un conte de fées subverti dans lequel les héroïnes ne peuvent compter sur un prince pour les secourir. Les femmes élaborent donc un réseau d'entraide clandestin et œuvrent à la destruction du système. Offred l'exprimera d'ailleurs en voix hors champ. C'est de leur propre faute. Ils n'avaient qu'à ne pas nous donner des uniformes s'ils ne voulaient pas que nous devenions une armée. Saison 1, épisode 10. Cette solidarité entre les personnages féminins se renforce à mesure que les opposants tentent de la dissiper. Pour avoir suivi Offred et refusé de lapider l'une des leurs, les servantes se font tour à tour brûler la main sur un poêle au propane installé dans une pièce vitrée. Tout le groupe est témoin du châtiment qui l'attend. Cela n'empêchera pas Offred de devenir la leader de la révolution. La salutation d'usage à Gilead que les servantes doivent utiliser entre elles, « under his eye », aborde de front le male gaze dominant de ce régime totalitaire contre lequel l'héroïne se révolte. Ironiquement, c'est par un jeu sur la forme que la série, elle, parvient à aller à contre-courant du traditionnel regard masculin de la caméra. L'intérêt du public pour le female gaze et les personnages féminins forts ne démord pas, si l'on en croit le succès des récents films No Man's Land 2020 et Moxie 2021, ou encore de la série The Queen's Gambit 2020, pour ne nommer que ceux-là. Il reste toutefois beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le pourcentage des budgets alloués aux projets pilotés par des femmes et le nombre de femmes derrière la caméra. Certains organismes de financement du milieu cinématographique québécois rédigent encore des appels d'offres en employant un masculin générique n'incitant pas les femmes à proposer leurs talents. Chose certaine, la présence ou l'absence des femmes derrière et devant l'écran ont des effets percutants sur les ambitions des jeunes filles. Des œuvres de fiction tournées par des équipes mixtes avec un female gaze assumé pourraient participer à renverser la balance. La nouvelle saison de La Servante écarlate arrive à point nommé pour réactualiser la réflexion. C'était La Servante écarlate ou l'émergence d'un regard féminin dans les fictions audiovisuelles. Un texte d'Anne-Sophie Gravel, paru le 23 avril 2021 dans le magazine La Conversation.
La pratique sage-femme est un combat féministe, un texte de Mélina Nantel, paru le 20 juillet 2022 dans le magazine Pivot. Sans contrat depuis plus de 2 ans, les sages-femmes ont finalement conclu mardi une entente de principe avec le gouvernement du Québec après plusieurs mois de négociations pour de meilleures conditions de travail adaptées à leur réalité. Alors que les hôpitaux débordent, que les listes d'attente s'allongent et que les besoins en santé se multiplient, le personnel de la santé, ou ce qu'il en reste, est à bout de souffle. Les sages-femmes n'y font pas exception. Elles sont, elles aussi, de moins en moins encouragées à vouloir porter le poids d'un système de santé fragilisé. Les négociations avec le gouvernement du Québec s'articulaient autour de la question de la reconnaissance financière du travail acharné des sages-femmes. La principale demande, une nouvelle échelle de rémunération qui compenserait adéquatement et équitablement la profession. On ignore le détail de l'entente de principe, mais le regroupement Les sages-femmes du Québec s'est réjoui de cette conclusion. Il en aura fallu du soutien, du courage et de la détermination pour traverser les derniers mois sans lâcher de vue l'objectif principal, améliorer les conditions de travail des sages-femmes, peut-on lire sur leur page Facebook. La présidente, Josiane Giroux, écrivait quant à elle, dans un communiqué officiel, que l'entente représentait de grandes améliorations des conditions de travail des sages-femmes. Le conseiller à l'information, à la CSN Laurent Soumis, a expliqué que les détails de l'entente demeureront toutefois confidentiels tant que les principales intéressées n'en ont pas pris connaissance. Le tout devrait être dévoilé dans les prochaines semaines en Assemblée générale. Pénurie de sages-femmes. Légalement reconnue au Québec depuis 1999, la pratique sage-femme est encadrée par un ordre professionnel en plus d'un parcours universitaire de 4 ans. Toutefois, le salaire annuel moyen est 4 fois moins grand que celui de la plupart des généralistes. Actuellement, les sages-femmes ne reçoivent que 2,50 $ de l'heure pour les heures de garde, où elles doivent demeurer disponibles sans nécessairement être appelées à travailler. Au sein de la profession, la pénurie de main-d'œuvre est alarmante. Depuis avril dernier, près de 10% des sages-femmes n'ont pas renouvelé leur adhésion à l'ordre. Cette pénurie a des impacts énormes sur les conditions de travail des sages-femmes restantes, qui doivent se réorganiser et assurer des quarts de travail en équipe. Des impacts directs sur l'accessibilité en découlent également. Selon le regroupement des sages-femmes du Québec, 60% des personnes ayant demandé le service d'une sage-femme n'auraient pas pu l'obtenir. À l'échelle de la province, 25% des postes affichés demeurent d'ailleurs non comblés. Un soutien émotionnel et médical. Dans la foulée des négociations, la Coalition pour la pratique sage-femme avait lancé un appel à mobilisation avec le mot-clic hashtag Je soutiens les SF. La coalition invitait les personnes ayant bénéficié de services sages-femmes à partager leur histoire. C'est le cas d'Annabelle Gravel-Chabot, qui est aujourd'hui devenue sage-femme elle-même. J'avais 19 ans la première fois que j'ai reçu l'aide d'une sage-femme. Je venais d'apprendre que le cœur de mon bébé ne battait plus, et elle m'a aidée à choisir comment vivre la fausse couche qui s'en venait. Je l'ai appelée, et une heure plus tard, j'étais dans son bureau. Je n'oublierai jamais sa compassion, sa douceur et sa disponibilité, raconte Annabelle Gravel-Chabot. Ce que demandent les sages-femmes au gouvernement en ce moment, c'est simplement d'être traitées comme les autres travailleurs et travailleuses du réseau de la santé. Vous écoutez, la pratique sage-femme est un combat féministe, un texte de Mélina Nantel. Méconnaissance de la pratique. Depuis le début, avant même la professionnalisation de la pratique, le gouvernement n'a pas fait la promotion des services sage-femme comme une option valide pour les personnes enceintes. Ce sont les regroupements qui, toujours, se sont mis en action pour démocratiser la profession, affirme Roxane Breton, présidente du groupe Maman, groupemaman.org, un mouvement pour l'autonomie dans la maternité et pour l'accouchement naturel. Pour celle qui a elle-même bénéficié de services sage-femme, le gouvernement a échoué à faire une valorisation adéquate de la pratique, notamment en offrant des conditions salariales répondant aux exigences de la pratique. Quand une personne entreprend le projet de vouloir donner naissance, à moins de connaître quelqu'un qui a obtenu les services d'une sage-femme, elle n'entendra pas parler de la pratique comme une possibilité réelle pour son accouchement, pense quant à elle Sarah Landry, co-coordonnatrice du groupe Maman. On a affaire à une méconnaissance de la pratique au sein de la population générale. Bien que la politique de périnatalité de 2018 vivait 18% de services sages-femmes pour les suivis de grossesse physiologique, ce taux stagne aujourd'hui entre 4 et 5%. Unicité et authenticité de la pratique. Parmi les revendications du regroupement figurait la reconnaissance gouvernementale du service unique que permettent les sages-femmes. Effectivement, en plus de permettre aux personnes enceintes de choisir le lieu de naissance qui leur convient, les sages-femmes proposent un suivi complet et une relation continue avant, pendant et après la grossesse. Selon Roxane Breton, la personne enceinte se sentirait ainsi plus en sécurité et en intimité et commencerait son rôle maternel avec plus de douceur. Selon la présidente du groupe Maman, bien que les suivis hospitaliers ou gynécologiques aient raison d'être, les grossesses, dites « normales et à bas risque », devrait être davantage accompagnée par les sages-femmes. Cela permettrait, entre autres, de désengorger le réseau de la santé actuellement largement saturé. Pour Lisanne Grégoire, directrice générale du Centre Mieux-Naître à Laval, il est évident qu'en cherchant à inscrire la pratique sage-femme au sein de la pratique médicale, les exigences reposant sur les épaules des sages-femmes se sont multipliées. Elles sont aujourd'hui trop peu nombreuses pour assurer les suivis de grossesse où elles sont appelées à intervenir. Plusieurs régions du Québec sont victimes de cette situation. C'est le cas de la Côte-Nord, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de Laval, où il n'y a actuellement aucune sage-femme disponible. C'était « La pratique sage-femme est un combat féministe », un texte de Mélina Nantel, paru le 20 juillet 2022 dans le magazine Pivot.
La colère et moi. Un texte de Marie-Hélène Racine-Lacroix, paru le 15 février 2022 dans le magazine Urbania. Toute ma vie, j'ai préféré me taire et m'oublier pour éviter les conflits que d'endurer la colère de quelqu'un. Je pense que j'ai un problème de colère. En fait, j'ai un problème de pas de colère. J'ai énormément de misère à me fâcher. Pourtant, il y a plein de choses que je trouve fâchantes, comme l'aveuglement du monde devant le racisme systémique ou les coins en métal de ma base de lit qui m'arrachent la petite peau des talons deux fois par semaine. Mais quand quelqu'un dépasse mes limites, je préfère me sauver que mettre mon pied par terre et oser monter le ton. Quand j'étais enfant, la colère ne faisait pas vraiment partie de ma gamme d'émotions, même si j'étais déjà particulièrement émotive. Quand j'étais témoin de la colère de quelqu'un, ou même d'un ton un peu trop agressif à mon goût, j'étais bouleversé. J'ai vite décidé que la colère était une émotion inconditionnellement négative. Je serais incapable de me souvenir de ce qui a provoqué ma colère les rares fois où je me suis moi-même fâché, mais je me souviens vivement d'avoir détesté le sentiment. Je me sentais dépassé par les émotions, comme si j'en étais trop pleine. Je détestais cette perte de contrôle qui m'envahissait. Un enfer pour l'enfant anxieuse que j'étais. J'allais, plus ou moins consciemment, décider d'éviter la colère à tout prix. J'étais aussi une sœur aînée qui allait vite prendre le rôle de la régleuse de chicane. Mes parents, tous deux enseignants, nous ont aussi appris que la colère n'était pas la bonne façon de communiquer nos émotions et qu'il fallait faire de belles phrases en « je ». Je suis d'accord, mais je pense que ma petite tête d'enfant sensible a pris ça trop au sérieux. Même si l'éducation n'était pas particulièrement genrée chez nous, je me demande aussi si la manière dont on éduque les personnes assignées femmes à la naissance n'a pas eu un impact aussi sur ma perception de la colère. Comme une éponge, j'ai absorbé le message de la culture populaire du début des années 2000. Une fille, c'est plein d'émotions, mais pas de la colère. Chez ceux élevés comme garçons, la colère est parfois tristement laissée comme seule émotion valide. Je me demande si tout ça a contribué à mon aversion pour la colère, la mienne et celle des autres, qui me suit encore aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai préféré me taire et m'oublier pour éviter les conflits que d'endurer la colère de quelqu'un. Maintenant, comme adulte, ma vision de la colère est évidemment beaucoup plus nuancée. Je comprends pourquoi certains et certaines se fâchent, et ça m'énerve profondément quand on utilise la colère des communautés marginalisées pour invalider leurs revendications. D'un autre côté, la colère continue tout de même à me terroriser, surtout celle des personnes plus conservatrices. Je la vois se propager et contribuer à la violence de la montée de l'extrême droite, et j'en suis paralysé de peur. Quand j'ai commencé l'écriture de ce texte, je ressentais une certaine jalousie envers les gens capables de vivre et de comprendre leur colère. Alors que la mienne me paralyse et se transforme rapidement en angoisse, j'envie celles qui sont capables de monter le ton et de répondre fermement aux injustices. Je réalise maintenant que ma perception était tordue. Je projetais mes propres insécurités sur un fantasme imaginé de la féministe parfaite que j'aimerais être. J'aimerais être vive et vite sur mes patins pour lancer des répliques cinglantes aux grandes conneries des misogynes. Mais la vérité, c'est que peu importe mon éducation ou la société, je n'ai pas cette fibre-là. Une partie de moi craignait aussi que ma sensibilité soit un obstacle, puisque j'ai tendance à ne pas m'accorder la même empathie que j'offre aux gens qui me blessent. Une partie de moi se disait que j'aimerais pouvoir m'en foutre, que ça me paraît tellement plus simple. Dans le fond, j'étais en train de tomber dans le piège que peut être la colère. Je suis fatigué et j'aimerais que tout soit plus facile. Je percevais naïvement la colère comme plus simple que toutes mes émotions tourbillonnantes. Il était aussi complètement erroné de percevoir ceux et celles que j'encense comme étant simplement en colère. Ils sont, au contraire, capables de surmonter ce qui les fâche avec leur brillance et sont probablement simplement meilleurs pour garder leur calme que moi. Certains sont aussi obligés de monter le ton, faute d'écoute de la part de leurs oppresseurs. J'ai toujours été le genre de personne à trouver la réplique parfaite à une chiennerie 5 heures trop tard, et ça ne changerait pas magiquement si j'étais soudainement en meilleure connexion avec ma colère. Dans le fond, je n'ai pas besoin d'être plus fâché. J'ai besoin de mieux reconnaître comment la colère s'exprime déjà en moi et de ne pas m'oublier. J'ai besoin de me donner le droit d'être fâché sans nécessairement découvrir ma She-Hulk intérieure. J'ai besoin d'accepter que, de toute façon, certains me colleront l'étiquette d'hystérique. Peu importe comment, j'aborde mes opinions doucement, alors que j'ai le droit de laisser 2 ou 3 répliques un peu cinglantes passer de temps en temps. C'était « La colère et moi », un texte de Marie-Hélène Racine-Lacroix, paru le 15 février 2022 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.infusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.